Vous écoutez un QDM de poche, un mini-épisode sur un objet culturel à la sauce Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel. Accompagnée de l'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Julie Amaïl.
C'est parti ! Peut-on réconcilier l'Amérique en prenant un bain moussant et en se coupant les cuticules ? À cœur vaillant, rien d'impossible, mais on est tout de même en droit d'en douter. Bienvenue dans cet épisode de Poche, où l'on va parler de l'émission Queer Eye, véritable phénomène qui va bien au-delà des blogueurs et blogueuses beauté et des influenceurs et influenceuses d'Instagram, et dont la saison 3 est diffusée actuellement sur Netflix.
They expect me to be someone else. More black, less white, more gay, less gay. I feel like I don't belong.
Absolutely not. You are not ready. You are not ready.
On va en parler avec toi, Julie. Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va. Alors, est-ce que tu avais connaissance du principe de cette émission ?
Je connaissais un peu le principe, mais par la version française, Queer 5 experts dans le vent.
Tu seras toujours un type de seconde zone qui mange de la guimauve et qui ressemble à une guimauve.
Qui passait sur TF1 quand j'étais ado, dans les années 2000, que je regardais. On va en reparler plus tard, mais c'est vrai que la version américaine, je la connaissais moins.
Alors on va faire un petit rappel historique justement sur l'émission originale, puisque au rayon coaching, cathodique et ravalement de façade, Queer Eye for the Straight Guy a d'abord été diffusée dans les années 2000 aux États-Unis. C'était une émission de makeover, comme on dit en anglais, qui a été vraiment une petite révolution sur la chaîne Bravo, où il était diffusé.
Bathroom. Wow, this is gross. Oh, great.
Le principe, donc, cinq hommes gays exaltés débarqués tel Christina Cordula chez un hétérosexuel négligé pour s'attaquer à la réfection intégrale de sa garde-robe, voire de son visage si nécessaire. Il faut se souvenir que l'émission a été assez controversée dans la communauté homo à l'époque, puisqu'elle présentait une version très mainstream, presque du sur-mesure pour les hétéros.
Oui, là aujourd'hui Netflix fait un reboot avec Queer Eye, qui connaît 3 saisons. Donc il y a 5 gars, les Fab Five. Chacun a sa spécialité. Bobby, c'est la déco.
Hey people, welcome to my home. I'm Bobby Burke from Netflix's Queer Eye. I wanted to give you a little tour of my house today, so come on in.
Jonathan, c'est la beauté.
Basic, basic.
Caramo, la psychoculture.
You're seeing a fat, ugly old man. We're not seeing it.
Anthony, la bouffe.
This is a turkey meatloaf with an entire block. Of cheddar.
Ethan, c'est les fringues.
Here's the thing, we can wear whatever we want. We've got beautiful brown skin. We've got like the nicest skin.
Ils font office un peu de fashion police ou de coach en développement personnel. Par exemple, il y a une dame religieuse qui donne tout à sa communauté mais qui oublie de s'occuper d'elle. Il y a un gros geek qui n'a pas eu son diplôme. Et chaque épisode se décompose un peu de la même manière. Donc d'abord, il y a un portrait de la personne qu'ils vont aider avec un objectif à la fin. Demander sa meuf en mariage, préparer une fête de déménagement, etc. Et les Fab Five commentent ce portrait dans la voiture qui les mène à la rencontre, souvent avec des petits commentaires bien cinglants. Ils scrutent ensuite tous les recoins de la maison. Là encore, il ne manque pas de commentaires. Et chacun va remplir son rôle au fur et à mesure de l'épisode. Relooking, cours de cuisine, déco intérieur, coaching de vie. Et on voit petit à petit la personne se transformer et être montrée à ses proches. En général, c'est la conchiale.
J'avoue. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors que le titre a changé ? Aujourd'hui, c'est simplement Queer Eye, puisque l'émission s'adresse aussi aux femmes parmi les personnes relookées. Le genre de l'émission appartient à une sous-catégorie de la télé-réalité qu'on peut appeler en anglais « feel good wet eye », c'est-à-dire réconfortant et passablement larmoyant, tu l'as dit. Et l'émission est aussi marketée un petit peu comme l'était Sex and the City à l'époque, c'est-à-dire que les spectateurs et spectatrices doivent se demander est-ce que toi tu étais plutôt une Samantha ou une Carrie. Alors à titre personnel, j'ai une petite préférence physique pour Anthony qui s'occupe de la nourriture et qui parle un petit peu français. Mais quand j'ai un coup de mou, j'aime bien me sentir un peu comme Jonathan, qui porte beau les talons, une longue crinière, ainsi qu'une luxuriante porn stash.
C'est marrant parce que moi, en regardant les épisodes, je ne me suis pas du tout posé cette question. Mais là, tu vois, je pense que mon préféré, c'est quand même Caramo, qui joue un peu le rôle du sage du groupe, tu sais, parce qu'il prend le mec à l'écart et puis ils parlent tranquillement de leur vie, de comment ils voient les choses et tout.
Ouais, c'est le plus posé. D'ailleurs, il faut dire que lui-même était dans une autre télé-réalité qui s'appelle The Real World.
Et qu'il est également très beau.
Oui, voilà, moi, comme tous. Alors, pour faire un petit rappel historique de la télévision LGBT, déjà, du côté de la fiction, la télévision gay n'est pas réellement nouvelle, puisque depuis une dizaine d'années, sont diffusées d'abord sur le câble, puis sur les networks, des séries comme The L Word, Looking, The New Normal, Will and Grace, etc.
Mom, I'm gay.
Mais par contre, aux États-Unis, ce qu'on peut dire pour ce qui s'applique au cinéma comme à la télévision, le code Hays de la censure, qui a sévi pendant de nombreuses années, en tout cas au cinéma, a longtemps cantonné les personnages homo à des figures repoussoires, c'est-à-dire des personnages de traîtres, des personnages ridicules, déviants ou des faire-valoir de la normalité. Et on a vraiment l'impression que Queer Eye opère un renversement positif en faisant des modèles. C'est ce qu'on appelle, en tout cas en sociologie, le retournement de stigmate, selon le théoricien Irving Goffman. Et je pense qu'il est aussi intéressant de mentionner que la télé-réalité a d'abord été très longtemps un lieu où se sont concentrés le pire des clichés sexistes, homophobes, racistes en Occident, et qu'elle est justement en train d'avoir une déclinaison progressiste. Même si nous ne sommes pas dupes, ça reste ce qu'on appelle du pinkwashing.
C'est marrant parce que moi, je n'ai pas trop le même avis sur la télé-réalité. Je me souviens, par exemple, d'un candidat transgenre dans Secret Story.
J'ai une personnalité masculine et c'est mon extérieur, ça ne mariait pas avec mon intérieur.
C'était vraiment une révolution, enfin, c'était quand même le tout début du programme, on n'avait pas du tout l'habitude de parler de ce genre de sujet. Il y a aussi Stevie Boulay, qui était dans la première saison du Loft, Love Story.
J'ai toujours été gay, mais au début je ne l'assumais pas pour une simple et bonne raison, c'est que j'en avais pas parlé à mes parents. Bon, mes parents se doutaient, mais à chaque fois qu'ils ont essayé d'aborder le sujet... Voilà, j'avais tellement peur de leur réaction.
Et finalement, je me dis, là, avec un micro-recul, que d'une certaine manière, les premières télé-réalités ont plutôt pas trop mal représenté la diversité. Chose qu'on retrouve plus du tout aujourd'hui dans Les Anges de la télé-réalité, par exemple.
Alors, l'heure du verdict a sonné. Est-ce qu'on aime ou pas Queer Eye ?
Fin du suspense, j'aime pas.
Globalement, mais t'as quand même regardé.
Voilà, globalement, j'aime pas trop, même si je reconnais, mais en tout point, la petite révolution sociale que ça provoque. En fait, je trouve ça génial que ça existe, mais moi, je suis pas le public. Enfin, j'accroche pas. Et toi ?
Oui, de toute façon, ça ne suffit pas à juger de la qualité d'une œuvre. Moi, de mon côté, je suis plus nuancée que toi. Puisque la réponse émotionnelle d'une partie de mon cortex vient contredire absolument mes convictions. En fait, c'est un peu comme quand on pleure dans l'avion en regardant Jurassic Park.
Ouais, quand tu te retiens de pleurer, mais que ça coule quand même.
C'est ça.
Alors, est-ce qu'on parle un peu quand même des points positifs du truc ? Dans le casting actuel, il y a quand même pas mal de diversité. Donc ça, c'est cool. Il y a un musulman, un noir. Chacun révèle un peu de son histoire au fil des épisodes. Il y en a un d'ailleurs qui... c'est un garçon élevé dans la religion qui a du mal à retourner dans une église. D'autres ont des enfants, sont mariés. Donc c'est vrai que ça apporte quand même une belle diversité à l'écran.
Oui, et je trouve aussi qu'il y a une grande diversité dans les masculinités homosexuelles qui sont déclinées, alors que dans l'émission originale, c'était plutôt des folles, je mets de gros guillemets, puisque traditionnellement, on oppose la figure de la folle donc, à une autre injonction, celle de l'homonormativité gay, c'est-à-dire un phénomène de normalisation qui en fait, établit de nouveaux standards au sein même de la communauté homosexuelle, mais en imitant le modèle hétérosexuel, donc une forme de conformisme qui perd parfois un peu de sa subversion. En tout cas, on peut dire que l'émission donne à voir un certain type d'amitié masculine qui, pour une fois, n'est pas une bromance. Donc, c'est l'amitié masculine sexiste qui se construit sur le dos des femmes ou des personnes minorisées. Et je trouve que ça, c'est assez précieux.
Ouais, ça, c'est trop bien. Cœur avec les doigts, parce que c'est rare de voir ce genre d'amitié entre hommes. Et puis, l'émission apprend aux hommes à parler entre eux, de leurs émotions, Parfois à travers le prétexte de prendre soin d'eux ou d'acheter des billets pour une comédie musicale.
Tous les prétextes sont bons.
Mais il y a un self-care masculin important et qui ne dépend pas de leur meuf. Ce n'est pas elles qui vont leur acheter des patchs pour les yeux ou les emmener se faire couper les ongles des pieds. Voilà, c'est eux-mêmes qui se prennent en charge. Et l'homme, hétéro ou non, qui va être aidé dans cette émission, a le droit de passer du temps à s'habiller, à s'occuper de sa peau, à s'intéresser à la déco. Et moi, je trouve ça très, très cool de voir ça en télé. Bon, on peut quand même parler des points un peu plus négatifs.
Oui,
qu'est-ce que t'en penses ?
Il y en a beaucoup. Alors moi, j'ai une toute petite remarque égalitariste à faire, puisque je déplore que la répartition du travail ne soit pas égalitaire entre ces garçons, puisque il y en a un qui coupe les cheveux et un autre qui refait carrément tout un appartement.
Mais c'est clair, moi je trouve l'aspect beauté et relooking est vachement mis en avant. Alors c'est peut-être parce que c'est ce que les spectateurs aiment le plus. Mais à côté, le côté psycho n'est pas toujours très poussé. Et je ne dis pas ça juste parce que c'est Caramo qui s'en occupe.
Et par ailleurs, un autre point qui me semble problématique, j'ai l'impression que la série s'intéresse finalement moins au genre ou à l'orientation sexuelle qu'aux questions de classe, en fait, puisque l'émission se passe aujourd'hui dans le sud des États-Unis, autour d'Atlanta et ensuite au Kansas dans la troisième saison. Pour provoquer du drama, donc en général non scripté, on espère, avec des personnes d'origine populaire ou prolétaire, des vieux réacs souvent très religieux, parfois homophobes, racistes, etc. Donc pour moi, je trouve qu'il y a vraiment un biais un peu classiste, puisqu'on a l'impression que la jeunesse urbaine est là pour civiliser les bouseux.
Ouais, c'est clair. Moi, c'est avec ça que j'ai le plus de mal. C'est un peu le côté « Allez les gars, on va chez les ringards et on leur apprend la vie ». C'est, voilà, c'est un peu dérangeant. Dans certains épisodes, je ne sais pas si les personnes aidées se sentaient si mal dans leur peau ou si c'est juste qu'elles ne correspondaient pas finalement à un schéma, je mets des gros guillemets, normal ou classique. Par exemple, le mec dans la saison 3 qui fait les Burning Man, qui utilise sa cuisine comme réserve de peinture et qui ne s'habille pas très chic. Franchement, s'il est heureux comme ça, pourquoi le changer ? Enfin, est-ce qu'il était si malheureux dans tout ça ? Ou est-ce que c'est juste la société qui préfère qu'il soit un peu différent, quoi, un peu standardisé ?
Tu trouves que l'émission imposerait une nouvelle norme, en fait, peut-être ?
Ben, un petit peu, quand même. Regarde quand ils sont relookés, finalement. Après le relooking, ils se ressemblent un peu tous, tu vois. Jean, t-shirt rentré juste devant, à la française.
C'est vrai que c'est très homogène.
Avec une petite veste de costard, voilà, ils finissent par se ressembler un peu tous, quoi.
Alors, Queer Eye, terre de contraste. Face à l'obscurantisme, au complotisme et à l'Amérique réactionnaire de Trump, la série propose une vision que je trouve extrêmement euphorique, voire idyllique, de la société. Pour moi, c'est à la fois son plus gros avantage et sa plus grande faiblesse. C'est-à-dire qu'à la fois, le discours politique est très light et reste très, très consumériste. Le sous-texte, c'est qu'on apprendrait forcément la tolérance au contact de la différence et qu'on peut également améliorer le monde en prenant soin de soi et en se faisant un masque hydratant.
Non, mais, et puis surtout, il y a des gens qui se disent « I love you » dès les 20 premières minutes.
Oui. Moi, ça, c'est américain, mais bon. Effectivement, et tout ça, je trouve, aboutit à peut-être essentialiser un peu les hommes homosexuels et à valider l'idée selon laquelle l'homme gay est là pour servir de faire-valoir aux hétérosexuels. On retrouve peut-être le motif du gay best friend, donc le meilleur ami gay qui est vraiment une sorte de sac à main, en fait, un peu comme dans Sex and the City. L'idée qu'il saurait forcément bien s'habiller. Voilà.
Bien faire à manger, qu'il est bon en déco, qu'il sait ses pieds et sourcils. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça bien aussi qu'il s'occupe de femmes dans la série, même s'ils ont une idée de la féminité qui reste vachement stéréotypée, quoi. Ou à la fin de l'épisode, il faut que la femme reporte une robe pour qu'elle se sente femme, tu vois. Je trouve ça un peu dommage.
Et alors, il faut rappeler que l'émission a également été critiquée par une partie de la presse américaine qui trouve que les hommes gays doivent absolument prouver leur valeur à travers une espèce de performance de singe savant pour être acceptés en société. Ça, c'est ce que montrerait l'émission. Un peu comme si des personnes noires faisaient des claquettes au cirque pendant qu'on leur lance des cacahuètes. Et effectivement, ce point-là me paraît valide. Et enfin, il y a un dernier point problématique. C'est une scène, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec un policier dans un épisode qui va traiter de la question sociale, donc de Black Lives Matter. C'est une scène assez traumatisante pour le personnage noir de la série qui est donc surpris par un policier. Et c'est pas drôle, en fait.
The perception right now, especially between black people and cops, it's tension. When Henry pulled us over, immediately.
Ça a beaucoup fait débat.
Et vous alors, si on devait avoir Queer Eye en France, vous choisiriez qui ? Moi, perso, j'ai une petite préférence pour Stéphane Bern.
Ah non !
En coach diction et confiance en soi. Moi, je le prends lui direct.
En coach relais et château.
Donc vous, dites-nous quel serait votre casting de rêve. Écrivez-nous sur Twitter et Instagram. Je rappelle que notre compte, c'est @quadmeuf. Voilà, quelle est votre sélection ? Faites-nous rêver.
Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. À la semaine prochaine pour un épisode long. Merci, salut Julie.
Salut Clémentine.
Quad Meuf est une émission de nouvelles écoutes animée par Clémentine Gallo
et Julie Amaïn.
Avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Adrien Beccaria, au montage et mixage Laurie Galigani, coordination Laura Cuissard.